7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que faire face à l'augmentation d'images pornographiques accessibles aux enfants? En France, la moitié des jeunes de 15 ans a déjà visionné un film porno. Le phénomène est mondial, avec les smartphones, la circulation de ces images gratuites s'est simplifiée. Alors, quelle est la réalité, l'ampleur de la banalisation de la pornographie sur Internet? Quels sont les effets aussi sur la façon dont les jeunes se projettent dans la sexualité, dans une vie sentimentale? Quels sont les systèmes et applications pour bloquer ces vidéos? Quelle fiabilité? Et puis il y a les lois. Sont-elles efficaces pour pénaliser ceux qui mettent en ligne ces images? Bien sûr, vous allez nous appeler pour questionner, dialoguer avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. Dans le studio, Thomas Romer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est l'Open qui a publié une étude il y a deux mois, vraiment tout récent, qui s'appelle les adolescents et le porno vers une génération YouPorn, grand point d'interrogation. C'est une enquête qui a touché plus de 1000 jeunes de 15 à 17 ans et qui a été réalisée par l'IFOP. Et vous allez évidemment nous expliquer quelle est la réalité aujourd'hui de la situation. Yaël Amselem-Mingui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, et vous travaillez beaucoup sur la question de la sexualité et des jeunes. Et enfin, Ovidie, bonjour.
Bonjour.
Ex-actrice de Film X, vous êtes passée derrière la caméra déjà depuis pas mal d'années pour réaliser des films pornographiques féministes. Vous êtes engagée, vous avez dénoncé les dérives et les dessous du hard avec le documentaire Pornocratie qui est sorti il y a quelques mois, où le sexe n'est pas épargné par l'ubérisation. Et on en parlera aussi de ce contexte et de comment sont fabriquées ces images qui sont aujourd'hui largement consommées par des jeunes, par des enfants. Je vous lis quelques messages postés par les auditeurs. Il y a beaucoup de réactions. Alors, il y a Diaby à Bamako qui dit « Je vais interdire les smartphones à mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans ». Bon, bonjour l'ambiance à la maison, Diaby. Hein. Amadou à Bangui, en République centrafricaine. « Regarder n'est pas synonyme de pratiquer ». Mais de toute façon, c'est vrai, il faut en parler avec eux en leur expliquant les dangers que cela peut causer. Abakar, N'Djamena, au Tchad. « Tout le problème vient de l'utilisation trop fréquente des smartphones ». Il faut revoir l'éducation des enfants, leur expliquer comment agir face à la pornographie. L'interdire, je pense, n'est pas forcément une solution. Francesco est à Abidjan. Lui, il veut réglementer toute la mode de la rue. De nos jours, les enfants se promènent et croisent une tantine à moitié nue, habillée trop sexy. Alors forcément, ça pousse à la curiosité. Et bonjour les dégâts. Il faut mettre en place une politique de contrôle stricte. Et puis, il y a les fatalistes comme Djibril à Kaï, au Mali. Étant petit, quand on n'osait pas dire à une fille qu'on l'aimait, on passait le week-end à regarder des vidéos porno. Les filles de notre âge se méfiaient de la sexualité alors que nous éprouvions du désir sexuel. Il faut bien trouver quelque chose pour aider le garçon à se mettre en confiance. Je vois sourire, Ovidie.
Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais oui.
Et Abdoulaye, d'enchaîner, qui est à Conakry. Ma voisine, c'est pas facile. Ça, c'est à moi qu'il s'adresse. Si l'enfant n'apprend pas ces choses à la maison ou à l'école, c'est sur Internet que ça se fera. Moi, j'ai appris à la télé. C'était extraordinaire. Laissez les enfants faire des folies, ça leur passera. Voilà, appelez-nous maintenant. On a envie de vous entendre de vive voix, dialoguer avec nos invités. La pornographie et les enfants et les adolescents. Notre numéro de téléphone ne change pas du lundi au vendredi, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Alors déjà, de quoi parle-t-on, Thomas Romer? Quelle est l'ampleur du phénomène, la place des images pornographiques dans la vie des jeunes de 15 à 17 ans? Et vous les avez même questionnés sur ce qu'ils avaient fait avant leurs 15 ans.
Alors, oui, l'idée un petit peu de cette étude, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chiffres, c'était de dresser un tableau et d'essayer de mesurer les choses. On s'est focalisé uniquement sur un échantillon d'ados de 15 à 17 ans qui ont été interrogés, en plus, sans la présence de leurs parents, avec l'accord des parents, mais sans leur présence. Ça, c'était un critère exigé pour avoir des réponses objectives. Ce qui ressort vraiment de l'étude et les chiffres qui nous ont surpris, enfin, c'est le chiffre que vous avez cité tout à l'heure, évidemment, ça nous a pas trop surpris. Près d'un ado sur deux a déjà surfé et visionné des contenus pornographiques. pornographique. Moi, ce qui m'avait un petit peu plus surpris, c'était notamment l'augmentation très importante du nombre de filles. On pouvait penser que c'était, je dirais, un mode de consommation qui était plus orienté vers les garçons. Or, on constate qu'en 4 ans, le nombre de filles qui ont visionné ce type de contenu a doublé, plus que doublé.
Donc aujourd'hui, c'est l'égalité ou pas ?
Non, c'est pas l'égalité, évidemment. Il reste toujours un écart important, mais en tout cas, c'est un
63% fait... encore pour les garçons, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Mais 37 pour les
oui
les
donc
filles.
On il y a quand même un gros, ah, écart.
Gros écart
mais
ouais.
Ça a doublé en 4 ans donc c'est
garçons et filles le chiffre enfin l'augmentation de la place des images pornographiques dans la vie de ces adolescents a quand même énormément augmenté en 4 ans on est passé de 37% de jeunes qui ont déjà regardé des images pornographiques à 51% en 4 ans.
Bah ça s'explique et je pense que la réaction de certains de vos auditeurs les messages qui nous ont déjà été adressés
le
démontre.
Le sujet n'a surpris personne.
Non bien sûr, ça s'explique évidemment par la facilité d'accès. Je pense qu'Ovidie reviendra dessus tout à l'heure. L'Internet a complètement changé la manière dont fonctionnent les choses maintenant au niveau de l'accessibilité à ces images. Et puis d'autre part, le taux d'équipement en termes de smartphones qui ne cesse d'augmenter partout sur la planète.
Est-ce que ces chiffres, on les retrouve dans d'autres études qui ont été menées dans d'autres pays ?
Alors, la dernière étude de ce type était un peu ancienne en Espagne et encore n'était pas réalisée vraiment de manière...
Il n'y a pas des études systématiques dans tous les pays.
Non, on manque vraiment de chiffres. C'est vraiment le problème. On manque de chiffres et puis en même temps, c'est une question qui n'est pas simple à aborder pour qu'elle soit traitée de manière objective parce que si on le fait évidemment avec la présence des parents...
Là, c'était un questionnaire en ligne. Hein. Ouais. Évidemment, ils sont tout seuls avec leur smartphone ou leur ordinateur, ça simplifie beaucoup les choses pour qu'ils répondent de manière cash, sans chercher non plus à se vanter.
Tout à fait.
Mais les copains.
Une fois encore, le chiffre qui ressort, il faut aussi, là c'était une moyenne, il faut aussi regarder l'écart type et au niveau de l'écart type, de mémoire, la personne qui a répondu au questionnaire, la plus jeune qui était tombée sur ce type de contenu, avait 5 ans. Donc on sait très bien que...
On tombe sur ces images par hasard ou pas, d'ailleurs ?
Bah, y a deux types de cas, en fonction de l'âge, souvent.
Plus on est jeune. Ils ont tapé le fameux mot-clé sexe sur le smartphone.
Oh, y a pas besoin de taper sexe, on tape escargot, on peut tomber sur des contenus un peu olé-olé. Donc, ça dépend vraiment de l'âge. Moi, c'est un petit peu ce qui me préoccupe et c'est tout l'objet qu'on essaie de porter au sein de l'Open. Il faut vraiment différencier pour moi les enfants qui tombent en très bas âge, pour qui c'est vraiment problématique, parce que souvent il y a un phénomène d'enfermement sur soi et on n'en parle pas avec un adulte et l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et pour le coup, il peut y avoir dans certaines situations un vrai choc psychologique.
C'est clair. Beaucoup de jeunes découvrent le sexe par les images, avant de l'avoir pratiqué, contrairement à autrefois.
Je serais pas aussi formel que ça. Maintenant, c'est sûr que face à l'absence de réponse qu'est en mesure pour l'instant de proposer la société sur les questionnements des adolescents, je pense notamment à l'éducation sexuelle et affective en France qui est pas joyeuse, les ados notamment vont chercher les réponses par eux-mêmes.
Yael Amselem Mingui, l'âge de la première fois, il n'a pas tellement évolué lui.
Non, on voit, en tout cas pour la France, que l'âge ne change pas du tout. Après,
c'est-à-dire
l'entrée au lycée, donc vers les 16-17 ans, pour les filles comme pour les garçons.
Donc ça fait grosso modo plus d'un an et demi qu'on surfe et qu'on regarde des images pornographiques,
oui,
alors qu'on n'a encore jamais rien fait.
Bah si, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas eu sa première fois avec pénétration, pour être un peu technique, qu'on n'a rien fait. Et justement, en fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une corrélation entre le visionnage des premières images pornographiques et l'entrée dans la sexualité. Et en fait, on voit que plus on va avoir une vie sexuelle fréquente, reconnue, légitime, plus on va avoir aussi tendance à regarder des films pornographiques. Et que les adolescents, en fait, dans l'enquête qui a été faite, on voit bien qu'ils déclarent avoir vu des films. Nous, quand on les interroge de manière qualitative, ils parlent d'avoir vu des films, mais en fait, quand on leur demande combien, ils en ont vu beaucoup moins que ce qu'ils en racontent. Et souvent, ils n'en ont pas vu beaucoup, mais un seul, ça permet de pouvoir faire la discussion, faire la conversation et montrer qu'on fait partie aussi de la génération.
Mais qu'est-ce que ça pose comme problème pour vous qui travaillez sur la sexualité des jeunes, Yael Amselem ?
Alors, en fait, c'est très français de se poser la question du problème de la pornographie. Alors, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'enquête à l'international. C'est que d'un point de vue moral, en France, on considère que c'est un gros problème de société de l'accès des jeunes à la pornographie. Il y a des pays...
Il n'y a pas qu'en France, hein, chez nos auditeurs sur le continent africain.
Oui, mais il n'y a pas d'enquête pour autant. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté politique, ce n'est pas porté par les pouvoirs publics comme étant un problème de société. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas des questionnements sur la population, mais ce n'est pas construit comme tel par les problématiques publiques. Il y a des pays où c'est plus large, ça va être plus sur la population en général et la pornographie en général, et pas forcément centré sur les jeunes. Le fait est qu'en France, on a quand même des grosses questions sur la place de la sexualité des jeunes et la légitimité de la sexualité des jeunes par rapport aux autres générations.
Mais dans les pays anglo-saxons, par exemple, quelle est l'approche ?
Elle est plus populationnelle en général.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on va plutôt aborder la question de l'accès à la pornographie pour la population en général, et pas spécifiquement les jeunes. En France, on n'est que sur les jeunes. On ne s'intéresse pas du tout à l'accès à la pornographie, les conséquences que ça peut avoir sur la sexualité des adultes ou des personnes âgées. Enfin voilà, là-dessus, c'est pas du tout des thématiques de recherche.
Plus d'un garçon sur deux, plus d'une fille sur trois estiment que la pornographie a participé à l'apprentissage de la sexualité. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question par rapport à l'entrée dans la sexualité et la façon dont on se projette dans la vie sexuelle et sentimentale, parce que c'est indissociable.
Ben, on peut se poser la question de ce que eux ils vont appeler comme pornographie, hein, et la définition qu'il va y avoir, et puis le besoin d'avoir aussi, on a entendu parler de ce que c'est qu'un rapport sexuel, on n'en a jamais vu bien souvent, et donc on peut être curieux aussi de ce que c'est qu'un rapport sexuel. Or effectivement, pour la France, l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, il y a une loi, on a de la chance parce qu'on est un pays qui a encadré ça par une loi, c'est 2 heures 3 fois par an à tous les niveaux scolaires. Or, on le sait, cette loi...
Ça, c'est pour l'éducation sexuelle.
Ouais, en milieu scolaire, sur la vie affective et sexuelle. Et elle n'est pas répartie de manière égalitaire sur le territoire et pas effective dans l'ensemble des établissements scolaires. Donc du coup, après, chacun va aller chercher par ses propres moyens, avec ses propres mots-clés, sur les réseaux les plus... mondiaux, pour pas citer les marques, d'informations ou de s'échanger.
Ouais. Chacun fait sa cuisine dans son coin. Voilà.
Mais néanmoins, si je puis me permettre, il y a un point important qui a été souligné, c'est qu'il serait peut-être temps, et moi c'est un débat que j'appelle de mes voeux, qu'on redéfinisse ce qu'est un rapport sexuel en 2017. Parce qu'on nous bassine avec des études à longueur de temps qui sont toujours les mêmes. On dit que la sexualité n'a pas évolué. Oui, d'accord, mais là on parle de coït. On ne parle pas de pratique sexuelle. Or, on le sait tous, la sexualité est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que cela, surtout chez les jeunes. Et en effet, comme ça vient d'être souligné, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de
rapport... Donc pour parler clairement, hein, puisqu'on arrive juste après l'émission Priorité Santé avec Catherine Solano, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a des jeunes qui rentrent dans la sexualité donc sans coït, avec par exemple la pratique des fellations. Et que,
d'abord, ils s'embrassent, hein, comme tout le monde.
Voilà,
c'est toujours le premier baiser qui va rentrer dans la sexualité.
Et donc ça ne va pas rentrer dans les statistiques de...
Si ça entre dans les statistiques, non, mais on considère toujours que l'entrée dans la sexualité est l'entrée par pénétration, et en plus pénétration vaginale, pour être technique, vraiment.
Donc on est
mais
bien
statistiquement,
d'accord.
On a tous les chiffres avant les chiffres après.
Voilà. Ovidie, le contenu des images a beaucoup évolué ces dernières années, des images pornographiques.
Alors en fait, ce qui a vraiment changé, c'est le mode de diffusion, et forcément c'est un impact sur le contenu. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, qu'on soit finalement à Paris, à Bamako, à New York, peu importe, on consomme tous exactement la même chose parce qu'on va tous sur exactement les mêmes sites. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on avait tous accès, on faisait tous notre petite cuisine dans notre coin avec nos DVD ou notre petit producteur préféré ou notre machin. Aujourd'hui, tout le monde, le monde entier... Il y a peut-être pas d'études dans tous les pays, n'empêche que tous les pays, enfin tous les habitants du monde entier vont sur les mêmes sites. Tout le monde va sur ce qu'on appelle des tubes. Les tubes, ce sont des sites qui sont construits sur le même modèle que YouTube et qui sont des sites de streaming sur lesquels sont diffusés 24 heures sur 24 des millions et des millions de vidéos en accès libre et gratuit. Je dirais que c'est ça qui a principalement changé, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun contrôle sur ni sur l'âge, ni sur le contenu diffusé. Avant, il y avait des garde-fous. C'est-à-dire, pour qu'un film soit diffusé par exemple à la télévision, on le voit par exemple en France, les films étaient autorisés, enfin sont toujours autorisés sur Canal+, il y avait un certain nombre de règles à respecter. Il y avait une protection des mineurs à respecter, il y a un système de double cryptage, etc. Mais surtout, il y avait des garde-fous au niveau des pratiques. C'est-à-dire, par exemple, les pratiques de violence étaient interdites, le préservatif était imposé, etc., etc. Là, on est sur Internet, il y a zéro limite. La seule limite, c'est la pédophilie, la pédopornographie. Mais sinon, c'est freestyle. C'est-à-dire, dire, on peut mettre des claques à une fille, on peut simuler des viols, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune limite. Et ce qui est, je dirais, moi, ce qui m'inquiète à l'heure actuelle, c'est que finalement, la production à l'ancienne, entre guillemets, tend à disparaître. Mmh. Et qu'aujourd'hui, ce qui est consommé, ce sont des vidéos qui sont plus violente. Mmh. C'est pas vraiment que la production est plus violente, c'est qu'il n'y a plus de restrictions.
Le porno a toujours idéalisé, survalorisé tout de même la performance sexuelle. Ça,
bien sûr.
C'était déjà là.
Et elle a toujours été phallocentrée, c'est-à-dire basée autour du coït,
fellation, vaginale. Voilà. Et donc, on avait des jeunes qui disaient, bon, bah oui, je comprends pas très bien, dans la réalité, ça marche pas aussi bien, ça, ce problème-là, il est ancien. Mais là, vous faites apparaître, effectivement, le phénomène de la violence.
Ce qui est plus problématique, c'est-à-dire, toutes les accusations qu'il pouvait y avoir avant, genre, ah, le porno, c'est pas la réalité, le porno, c'est pas de l'amour, j'ai envie dire, c'est secondaire. Le porno, c'est du fantasme. C'est du spectacle, c'est de la représentation. Ce qui est plus embêtant, c'est à partir du moment où on se retrouve confronté avec, je dirais, une augmentation de la fréquence, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de centaines de milliards de connexions par an sur les tubes. On est vraiment très très loin des consommations qu'il pouvait y avoir encore il y a une dizaine d'années. Là, on parle de centaines de milliards de connexions par an sur des vidéos qui sont, pour regarder des vidéos, qui sont relativement violentes. Forcément, ça a un impact sur notre sexualité. On ne peut pas mettre un mur entre ce qu'on regarde et ce qu'on applique. À partir du moment où on est confronté de façon très fréquente à ces images, ça a un impact au même titre que la pub, avec, le cinéma. Voilà,
et avec parfois aussi des addictions, on n'a pas encore parlé de la fréquence. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Victor.
Bonjour Emmanuel Bassi, bonjour à tous les voisins et bonjour aux invités.
Victor, vous avez 25 ans, vous êtes à Moundou, dans la capitale économique du Tchad. Vous souhaitez nous parler de ce que vous avez vu comme image porno lorsque vous aviez autour de 14 ans, je crois.
Justement, en fait, je voudrais donner un tout petit témoignage sur l'influence des films pornographiques dans ma vie adolescente.
Oui.
À 14 ans, j'avais un téléphone smartphone qui contenait beaucoup de films, parmi lesquels il y a des films pornographiques.
Oui.
Au départ, je ne voulais pas visionner. Mmh. À force de défiler chaque fois ces films, je me suis jeté dans ça sans me rendre compte. Tout mon esprit était occupé par le désir ardent de visualiser de temps en temps cela.
Mmh. Et vous regardiez ces films à quelle fréquence il y a une dizaine d'années où vous aviez ces films déjà dans votre smartphone?
Oui, j'ai regardé ce film lorsque j'avais 14 ans. Et j'avais même un site qui me permet de télécharger des films pornographiques, surtout les films XX.
Oui. Vous regardiez ça très régulièrement, hein, avez-vous dit au standard?
Oui. Au départ, je ne regardais pas de temps en temps, et tellement que je suis déjà habitué à ça. Je n'arrive même pas à rester deux ou trois jours comme ça sans regarder ce film.
Et ensuite?
Et lors d'un séminaire sur l'impact des films pornographiques, ou bien l'impact des films pornographiques sur la vie d'un jeune chrétien, un orateur nous expliquait cela. Et c'est comme s'il relatait ma vie, ça m'a passé. Je n'arrive même pas à faire une heure du temps sans regarder les films pornographiques. Tous mes esprits étaient occupés par le désir et le sentiment de faire l'amour. Tellement que ces films ont impacté négativement déjà dans ma vie.
C'est ça, et dans votre relation, dans vos relations sentimentales également?
Justement dans mes relations sentimentales. Et surtout avec mes petites copines, je voudrais faire la pratique et à chaque moment avec ma petite copine.
Et vous avez complètement cessé de regarder ces images?
J'avais complètement cessé. Et c'était au sortir toujours de ce séminaire que j'avais décidé de me débarrasser de ces films-là. J'avais essayé, tout premièrement, j'ai fait deux jours sans regarder ça. Et petit à petit, à une semaine, je décale à un mois. Et j'avais fait même un an sans regarder ça. Tout cela... C'est lorsque j'avais 20 ans.
Ouais, des addictions qui sont pas simples, hein, d'ailleurs, hein, et qui parfois relèvent du domaine même médical. Merci beaucoup, Victor, de nous avoir appelé. Intéressant de savoir qu'il y a des séminaires à Moundou sur le lien et le problème de l'addiction à ces images pour un jeune chrétien. En tout cas, preuve que le sujet n'est pas forcément tabou. Vous restez avec nous et vous nous appelez, bien sûr, les auditeurs au 33 1 84 22 71 61.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins sur RFI. Que faire face à l'augmentation d'images pornographiques accessibles aux enfants, aux adolescents? C'est devenu un phénomène de société, une consommation de masse, disent les chiffres, et le trafic sur les sites, y compris bien sûr pour les adultes, est tout à fait absent du débat public. Vous nous le disiez dans le studio, Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité de l'éducation numérique, Yaël Amselem-Mingui, sociologue à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous êtes spécialiste des questions de sexualité chez les jeunes, et Ovidie, auteur du documentaire Pornocratie, un regard critique sur l'industrie actuelle du X. Et bien sûr, vous nous appelez, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on donne la parole à... on n'a pas encore Yannick qui... on cherche à joindre Yannick qui nous a donné son numéro de téléphone et qui était à Kisangani et qui s'est exprimé déjà aussi sur le fil Facebook. Il y a une question d'Abdourahmane qui poste cette question de l'abbé en Guinée-Conakry. Y a-t-il un moyen de bloquer tous les sites pornographiques sur mon téléphone? Il n'a pas parlé du téléphone de son enfant, mais sur le sien.
Alors, c'est vrai que sur ce point précis, il y a des difficultés globales et qui viennent en plus de la volonté des constructeurs de téléphones d'accepter ou pas qu'on puisse venir se mêler de tout ça dans le mode du fonctionnement des paramètres généraux du téléphone. Néanmoins, à l'heure d'aujourd'hui, la tendance c'est de développer des applications qui sont dans le cloud, donc qui sont plus installées physiquement sur les appareils, et c'est quelque chose qui fonctionne un peu mieux qu'avant, et notamment une, je ne sais pas si on peut citer, il y a une boîte française qui a développé, qui s'appelle Parents dans les parages, qu'on trouve très facilement sur internet, et qui a développé des solutions assez efficaces, avec en plus un algorithme qui permet de bloquer tout en analysant les contenus pornographiques.
C'est une application qui est payante?
Oui, mais pas très onéreuse, si on peut parler de... On est autour du prix d'un café par mois, donc pas café à Paris, 2 euros.
Parents dans les parages. Alors, voilà. Bien évidemment, étant donné que vous nous l'expliquiez, Ovidie, le porno est tellement diffus, tellement généralisé qu'il est très difficile de protéger réellement un smartphone pour un adolescent d'images pornographiques.
En tout cas, c'est pas simple. Faut faire la démarche, faut être au courant, faut aller fouiner. Moi, par exemple, cette application, je la connaissais pas.
Ah,
donc, c'est pas simple.
Les
rien
parents,
n'est simple.
Globalement, c'est-à-dire qu'autant à l'époque des ordinateurs, il y avait le contrôle parental, etc. Il y avait une large communication là-dessus. Maintenant que ce sont les smartphones, les parents sont très peu renseignés, non, sur la question?
Enfin, sur le contrôle parental, ça n'a jamais fonctionné. ça n'a jamais fonctionné. En général, les gens, après l'avoir installé, jetaient l'ordinateur à la poubelle parce qu'il était complètement bloqué. Donc, on était à peu près à 30% d'installation en France, ce qui est très très peu au regard des millions investis, notamment en termes de communication, par les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc ça ne fonctionne pas. Je pense que les parents, on a surtout besoin de les accompagner à savoir parler de la sexualité et non pas de la sexualité de leurs enfants ou de leur propre sexualité. C'est juste de pouvoir aborder le sujet.
Alors c'est pas simple. Aborder le sujet, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, d'auditeurs nous disent effectivement, je pense que le meilleur moyen c'est de pouvoir en parler avec ses enfants. Enfin, paradoxalement, il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne parlent jamais de sexe avec leurs enfants. Alors, je vois très bien comment on peut parler de pornographie sans aborder la question du sexe. Bon, enfin, Yannick est en ligne avec nous à Kisangani en République démocratique du Congo. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour Emmanuel Bastide.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Voilà, je redonne le numéro pour les autres qui veulent nous joindre. Vous souhaitiez nous parler de votre petit frère de 14 ans.
Ah oui, absolument Emmanuel Bastide. Comme vous le connaissez très bien et comme ça a été souligné là au studio, vous savez bien, la pornographie, c'est un problème réel et un frein même à la moralité. Parce que la circulation des images, des audios incontrôlés sur les réseaux sociaux, c'est une évidence chez les jeunes, les ados. En fait, pour les cas qui me concernent, les témoignages que je voudrais donner, c'est pour le petit frère de 14 ans qui, à un moment donné, un jour, j'avais circulé dans sa chambre avec son téléphone portable, en fait, checker les images pornographiques. Un jour, il revenait des cours. Parce que, comme je l'ai expliqué, l'enfant avait un téléphone parce qu'il étudiait les après-midi. Nous qui étudions les avant-midi, alors le fait qu'il y avait des décalements des temps, il faudrait que l'enfant ait son téléphone avec lui. Le moment où il venait, pas à l'accoutumée, il venait souvent, il passait à la table, à la salle à manger. Mais à un moment donné, le jour-là, je suis dans mon salon, je l'ai trouvé venir, il dépose son sac, il s'en va dans sa chambre. Il a été un peu traîné, j'étais un peu... intéressé. Je suis allé voir ce qu'il était en train de faire dans la chambre qui lui a empêché de venir manger comme il le faisait comme d'habitude. Alors, arrivé dans sa chambre, je le trouve un peu allongé dans, sur son lit. Je le trouve avec son employé, en train de checker. Quand j'ai pris le téléphone avec moi, je trouvais qu'il était en train de voir les images et les audios qui étaient là, juste des pornographies. Et voilà, ça m'a étiqueté.
Comment vous avez réagi, Yannick? Vous avez 24 ans, donc bon, il y a 10 ans d'écart avec votre petit frère.
Effectivement, ma réaction ne devrait être que... D'abord, je devrais gronder à l'enfant. Je lui ai dit, où est-ce que tu as tué les images? L'enfant a essayé un peu de se défendre. Il m'a dit, écoutez, mon grand, le fait des images, je les ai piquées chez un ami à l'école. J'ai eu les images ici. On m'a donné les sites là où je devrais naviguer, je sais, pour avoir les images avec moi. Bon, c'était déjà une soirée, nous étions déjà réunis à la famille, les parents étaient déjà des retours du boulot. J'ai pris l'enfant, nous sommes sortis, nous sommes allés au salon, j'ai appelé maman, papa qui était là. On a essayé un peu d'en discuter, je leur ai dit, parce que même avant que cela ne puisse se produire, je disais aux parents qu'il faudrait que vous puissiez prendre le temps de pouvoir aussi réunir les enfants, que vous puissiez leur parler de la sexualité. Mais cela n'était pas chose faite, parce que peut-être que l'on attendait que cela puisse se reproduire chez nous à la maison.
Ah oui,
et
c'est
voilà,
ça.
Les parents étaient montés, ils n'avaient pas voulu attendre.
Vos parents n'avaient pas envie d'aborder le sujet, en fait?
Oui, ils n'avaient pas envie, mais je leur disais qu'il faudrait qu'ils le fassent, parce que si l'enfant découvrait ça ailleurs, il pourra être expliqué d'une autre façon et cela pourra les détourner peut-être d'une bonne façon.
Oui. Et finalement, alors, c'est vous qui avez abordé le sujet avec votre petit frère ou ça s'est discuté en famille? Quel a été un peu le désamorçage de cette petite crise?
Moi, je me suis mis au milieu entre
médiateur.
Le petit frère et les deux parents qui étaient là. Ouais. Ah oui, mais médiateur, en fait. Je fais voir aux parents qui étaient un peu montés, que non, si l'enfant est arrivé à ce niveau, c'est peut-être parce qu'il y a eu une négligence de votre part. Si vous l'expliquez ici à la maison, c'est peut-être qu'il n'aurait pas envie d'avoir les images. Et voilà comment, comme il était déjà curé à 14 ans, on est un peu curieux de savoir comment est-ce qu'on évolue son corps, le changement. Et voilà, l'enfant, il a piqué les images, il est venu s'expliquer dans sa chambre, il trouvait que...
Expliquer les évolutions de son corps, effectivement, c'est la base. Merci Yannick, mais c'est intéressant parce que Yannick soulève... Merci de nous avoir appelés en tout cas, et vous continuez de nous appeler au 33-1-84-22-71-71. Yalem Mselem Mingui, Yannick soulève quand même la question de que doivent faire les parents, quel est le rôle des parents dans cette histoire.
La difficulté, c'est...
Est-ce qu'on laisse ça au grand frère?
Alors, je pense qu'il ne faut pas laisser ça à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. C'est une question de à qui l'enfant ou le jeune va en parler. Et donc, ça va être à cette personne-là d'accompagner aussi le discours. Et alors, non, ça ne sert à rien de taper sur un adolescent qui a vu un film porno. Là, ça ne sert à rien de taper sur une adolescente qui a vu un film porno et que vous surprenez dans sa chambre ou avec des copains ou des copines en train de regarder un film porno, parce que pédagogiquement, on sait que ça ne fonctionne pas. Par contre, la discussion, et on a le droit de dire, écoute, je suis mal à l'aise de te retrouver à te surprendre avec des copains, des copines à regarder un film porno, parce que moi, j'en ai jamais vu, par exemple, ou parce que moi, j'en ai vu et ça m'a choqué pour telle et telle raison. Mais on peut accompagner d'un discours. On n'est pas forcément expert en tant que grand frère, on n'est pas plus expert en tant que parent, et c'est peut-être aussi décloisonner et s'autoriser à dire, là, on pourrait peut-être en parler. Après, il y a malgré tout à prendre en considération ce que commence à dire Yannick sur les conditions de visionnage. Là, il a surpris. Se faire surprendre, c'est pas confortable, alors que l'adolescent de 14 ans avait cherché à se mettre dans un lieu confidentiel, à l'abri des regards, pour un peu découvrir son truc tout seul. Donc du coup, après, il y a tout ça aussi de... C'est pas pareil à 14 ans qu'à 5 ans, c'est pas pareil que de choisir d'aller voir un film porno et de subir des images pornographiques. Et il y a quand même un impact qui est très fort entre choisir et subir un film porno.
Je pense qu'Ovidie a dit quelque chose de très très important tout à l'heure, et c'est un point d'entrée que moi je conseille souvent aux parents, c'est, puisque c'est pas simple de parler de sexualité, c'est de passer à travers le prisme des images. Il faut absolument que les parents se sentent à l'aise avec le fait de préparer leurs enfants ou de dialoguer avec eux autour juste uniquement de l'image, en partant du principe que c'est un genre fictionnel, c'est une fiction. On ne, au même titre que quand un enfant regarde un film de Bruce Willis qui va tuer...
Attendez, c'est toute la différence entre les films de violence, où la violence est simulée, où ce sont de fausses armes, du faux sang, et des images images pornographiques ou le...
Mais on est aussi dedans. Vous avez.
Attendez, l'acte sexuel n'est pas simulé.
Non, mais
on est dans. Ce sont des vrais corps et un vrai.
On est dans une construction.
Il y a une construction spectaculaire quand même. C'est-à-dire, c'est un produit qui est monté, qui est dans la représentation, qui est simulé.
Il y a un scénario joué.
Oui, ça se passe pour de vrai. C'est toute la différence avec les films qui montrent la violence.
Non, ça se passe pas pour de vrai. C'est de la fiction. C'est du faux. C'est du montage. C'est de la construction.
Maquillage, etc.
C'est monté. Surtout une scène qui peut durer, je sais pas, 3 heures au tournage, qui va y avoir des interruptions et tout, va durer que 10 minutes au montage.
Mais la pénétration a bien eu lieu. La fellation a bien eu lieu. Les corps sont réels.
C'est pas parce qu'il y a pénétration qu'il y a rapport sexuel.
La violence avec la violence, avec des armes.
Oui, mais la voiture qui se retourne, c'est une cascade. Bah, on peut. Enfin, c'est un peu du. Non, je vous assure.
J'ai lu beaucoup d'arguments là-dessus qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. Justement, c'est la différence entre la violence au cinéma et la pornographie. Alors, notamment.
Après, il peut y avoir des scènes pornographiques qui dérapent et où il y a une violence qui est réelle. Et ça c'est une chose.
Oui, mais non, sinon, je ne parlais pas de la violence pornographique.
La plupart des tournages pornographiques sont purement fictionnels.
Mais d'ailleurs, quand on interroge les adolescents, ils sont plutôt. Alors, vraiment, les ados, ceux qui vivent, pas les enfants, les adolescents. Nous, on vient de finir une enquête où on a interrogé pendant très longtemps 72 adolescents qui sont âgés de 14 à 18 ans, notamment alors avec un petit volet sur est-ce qu'ils ont déjà eu accès à des films pornographiques, comment ils regardent les films sur, alors en France, c'est Canal+. Donc voilà, est-ce qu'ils ont le droit et tout ça. Et malgré tout, ils savent très bien que c'est mis en scène.
Donc ils ont conscience des trucages, donc du montage en tout cas.
Ils ont conscience du montage. Alors après, ça n'implique pas que ça n'a pas des conséquences sur la mise en scène des corps, la mise en scène des rôles, les rapports hommes-femmes, l'épilation totale. Le garçon, dans le film, il était hyper bien foutu. Moi, comment je vais pouvoir faire du plaisir à ma copine? Je suis pas foutu comme lui. En même temps, t'as 14 ans, le mec, il en a un peu plus, quoi. Et puis, est-ce que c'est parce que c'est plus grand que c'est meilleur? Et en même temps, c'est ces questions-là qui leur font, qui font émerger. Et c'est pas tant sur le fait qu'ils vont voir un vrai film. Ils regardent pas un documentaire sur la sexualité quand ils voient un film porno. Ils regardent une fiction pour avoir des idées. Et pour un peu s'émoustiller.
Comment font les autres pays? En Chine, le porno est très limité parce que globalement interdit, y compris pour les adultes, mais aux États-Unis, quelles sont les tentatives pour le...
Complet. Non, il y a en fait le monde est divisé en deux. Les pays où le porno est tout simplement banni complètement, qui sont en général des pays qui sont pas très démocratiques. Et où la plupart des habitants trouvent des moyens détournés pour avoir quand même accès à la pornographie, et le reste du monde qui globalement s'en fout, à l'exception du Royaume-Uni qui tente depuis des années de mettre en place un système pour bloquer les sites pornographiques, mais qui patauge.
Pour protéger des mineurs ou pas, parce que c'est ça, là la vraie question qui nous intéresse, c'est la protection des mineurs, la protection des enfants.
Là c'est non, c'est pas spécifiquement les mineurs,
c'est les mœurs de la société.
Donc il n'y a pas vraiment de conscience dans les sociétés de la nécessité de protéger les enfants d'images pornographiques. Et on ne voit pas pourquoi on devrait protéger les adultes de cela, d'ailleurs.
Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'aux États-Unis, où il y a quand même beaucoup de levées de boucliers contre la pornographie, il y a quand même une grosse partie de la population qui n'est pas très ouverte à toutes ces questions de sexualité et de représentation. Et pourtant, aux États-Unis, on constate que... tous les sites dont on parlait tout à l'heure qui diffusent du porno H24, ils n'ont même plus de ce qu'on appelle de disclaimer, c'est-à-dire, vous savez, la petite case sur laquelle il faut cliquer, le petit bouton entrée, j'ai bien au-dessus de 18 ans, je suis bien majeur.
Et qui était inefficace en même temps, n'importe qui peut cliquer.
C'était efficace, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait sauter ce bouton-là, c'est parce que justement, ça leur faisait atteindre un plateau en termes de connexion. Et eux, il faut bien comprendre...
Pourquoi ? Parce que des jeunes, quand ils voyaient justement cette interrogation, ils n'osaient pas cliquer en disant « oui, je suis majeur » alors qu'ils avaient 15 ans, par exemple.
C'était dissuasif, mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants qui tombent dessus. C'est pas la même chose, un gamin qui a 9 ans ou un gamin qui en a 15-16, c'est pas la même chose.
Là, il a peur.
Entre faire la démarche de regarder un film porno pour s'exciter et avoir 9 ans et tomber par hasard dessus. Et si on tombe par hasard dessus quand on a 9 ans et qu'on nous demande « tiens, est-ce que j'ai plus de 18 ans ?» on se dit, je ne suis pas au bon endroit. Voilà.
Mais je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire. En France, on est en train de se poser la question, puisque Laurence Rossignol,
tout
dans le cadre de son plan interministériel...
Ex-ministre de la Famille.
Voilà, a confié à la Direction Générale de la Cohésion Sociale et à moi-même, à la copilotage d'un groupe de travail qui réunit, qui a déjà fait une première réunion, qui va en faire 4 autres d'ici la fin du mois d'octobre pour justement réfléchir aux mesures législatives qui méritent d'être d'évoluer, mais aussi aux mesures techniques qu'on pourrait mettre en place avec un objectif clair qui est de limiter l'accès à la pornographie aux mineurs.
Parce que pour l'instant, la loi en France dit qu'exposer un mineur à un message caractère pornographique est un délit. Tout ça, c'est de la théorie. 3 ans de prison, 75 000 euros d'amende.
C'est pas de la théorie, parce que le paradoxe de la situation dans laquelle on est, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, un kiosque qui est sur les Champs-Élysées, qui est un peu endormi le matin et qui se trompe et qui met une pile de journaux pornographiques en bas de la pile, et ben lui, il risque cette amende. Mais en attendant, tous les sites mafieux qui pullulent sur Internet, eux, ne risquent rien. Ouais. Et c'est ça qui cause un problème.
En France, on a toujours quand même historiquement été assez sensible aux questions de protection des mineurs, puisque la France, en France, on a mis en place le double cryptage il y a un certain nombre d'années pour les chaînes qui diffusent du porno. On a été le seul pays aussi à imposer le préservatif sur les tournages. La France et le Brésil sont les deux seuls pays où on utilise le préservatif. Donc on a toujours été historiquement assez, pas prévoyant, mais je dirais, on a toujours été assez conscient, je dirais, de ces problèmes-là.
Pour conclure, alors avant qu'on conclue, je voudrais surtout, Ovidie, que vous nous redisiez, parce que vous avez bien mis en lumière dans votre documentaire les conditions dégradantes de la fabrication des images aussi aujourd'hui. Hein. Vous avez bien expliqué que bon, aujourd'hui, ces images sont fabriquées par des multinationales très opaques qui diffusent plusieurs milliards
des centaines de milliards de connexions. Alors elles ne produisent pas, elles diffusent.
Voilà, elles diffusent. Mais sur la production, vous avez bien mis en lumière dans votre documentaire Pornocratie. Comment le monde du porno a complètement changé, avec des conditions dégradantes, beaucoup moins d'usage du préservatif. Est-ce que vous pensez qu'en dénonçant finalement une sorte de capitalisme sauvage version sexe, et sur le caractère occulte aussi de ces sites, ça peut participer à la sensibilisation des jeunes ou pas?
Oui, peut-être que certaines personnes sont sensibles à ça.
Parce que la réalité aujourd'hui, elle est juste épouvantable, en fait, des conditions de fabrication de ces images.
En partie. Après, c'est pas l'intégralité de la production pornographique, mais c'est vrai que c'est ce qui reste, sachant que 70% des maisons de production ont mis la clé sous la porte parce qu'aujourd'hui le porno est gratuit et que l'industrie de la pornographie n'a pas survécu à la gratuité d'Internet. Donc forcément, ne reste que les productions un petit peu plus hardcore, on va dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une escalade de la violence dans les pratiques. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi en parallèle une pornographie un peu plus alternative qui se développe en général. En fait, Internet, c'est le poison et l'antidote, c'est-à-dire Internet est responsable justement de cette escalade de la violence dans les films pornographiques, et en même temps, c'est l'antidote dans le sens où on voit se développer une pornographie plus alternative, plus éthique aussi. On a vu se développer sur des blogs, des paroles féministes émerger sur les questions de sexualité. Donc on voit qu'il y a une forme d'opposition qui se développe sur ces réseaux-là. Maintenant, c'est vrai que oui, il y a aujourd'hui des tournages qui sont juste scandaleux, et on demande aux actrices des choses qu'on n'aurait jamais osé leur demander il y a ne serait-ce qu'encore 5 ou 6 ans. On voit que ça escalade très 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 vite.
Ces images, majoritairement aujourd'hui, elles sont fabriquées où ? Géographiquement.
En fait, les pôles restent les mêmes. États-Unis et République tchèque et Hongrie. Voilà. Ce sont vraiment les deux plus gros pôles, mais c'est comme ça depuis les années 90. Je pense que c'est pour des questions de législation. Quand je dis États-Unis, c'est Californie, plus précisément.
Et il nous reste vraiment quelques minutes, Yael Amsalem Mengi. Que dire à ces enfants pour aborder le sujet? Parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui se disent « Oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on ouvre les yeux sur la réalité », parce que beaucoup de parents, finalement, aimeraient bien ne pas savoir. Et comment on aborde le sujet? Les phrases idiotes à ne pas dire, comment vous voyez les choses?
C'est une bonne question.
Thomas Romer, alors.
Il nous reste je pense en tout cas, juste, je te coupe, mais
je vous en prie.
Je pense qu'on ne peut pas parler de la même manière à un enfant et à un adolescent. Il faut bien faire attention au vécu de la personne avec qui on va, enfin, qui est destinataire du message qu'on va essayer de dire. Et interdire arbitrairement en n'expliquant pas, ça n'a jamais servi à grand-chose.
Oui, surtout que les adolescents, on sait très bien, sont là pour braver les interdits, donc, et ça fait partie du processus en plus positif de construction de l'adolescence qui s'oppose à l'autorité parentale, donc il n'y a aucun souci là-dessus. En effet, vraiment le point principal, c'est préparer les enfants potentiellement jeunes au fait qu'ils risquent de tomber sur ce genre d'image et leur dire que ce n'est pas de leur faute, ça peut arriver, c'est comme ça, en l'état actuel des choses sur la toile, ça peut venir en regardant en streaming le monde de Nemo, on tombe sur le monde de Rocco, voilà, il faut que les enfants en soient conscients et que les parents en parlent avec eux pour les déculpabiliser et qu'ils ne restent pas avec une espèce de traumatisme qui peut occasionner des dommages. Et puis pour les adolescents, c'est vraiment ne pas être dans des postures en effet d'interdiction, mais plus d'accompagnement et faire comprendre que ce n'est pas la réalité. Voilà.
Alors après, ce que j'ajouterais malgré tout, c'est sur les conditions de visionnage, c'est-à-dire qu'on peut être avec des copains qui nous invitent à regarder quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, et on peut aussi vouloir en parler. Et donc, il faut aussi être capable de pouvoir accompagner son enfant vers... Et alors, c'était bien le film que tu as vu hier avec tes potes, ah, c'était pas vraiment ça que tu voulais voir, que ça soit pornographique ou pas,
et mais oser
s'exprimer et choisir, en fait.
Tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois. Thomas Romer de l'Institut, de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, sur lequel on peut trouver évidemment l'enquête de l'IFOP, Yael Amselem-Mingui de l'INJEP, l'Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire, et Ovidie pour votre documentaire Pornocratie. Merci à tous les trois d'être passés. Dans quelques instants, nous partons à la découverte des entrepreneurs en Afrique, un tout autre sujet. According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, no money in the pocket to pay. Never stop to take the shortcut, though it might be easier for me. Whenever it's all that is as much, confess and recognizes me. I go down on my knees and pray the morning, no matter what comes. On my knees I will stay, I keep beseeching, so let the storms come. And I know that the love will conquer everything. Cause I know that you got me and I got you. Job, c'est Neka chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous partons maintenant à la découverte de la caravane Saga Africa. C'est une caravane de jeunes entrepreneurs qui a fait le chemin aller-retour, qui est sur le retour en ce moment en voiture, Sénégal vers le Maroc, Maroc vers le Sénégal, par la route pour participer la semaine dernière à Casablanca au salon des entrepreneurs Hub Africa. Et nous sommes en ligne avec Pape Landing Mané. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprises internationales. Vous étiez avant le dirigeant du Centre des jeunes dirigeants d'entreprises Sénégal. Et donc, vous êtes l'organisateur de cette caravane Saga Africa. Avec, il y avait une trentaine de jeunes dans ce périple. Ils sont en train de rentrer au Sénégal par la route. Pas seulement des Sénégalais d'ailleurs. Hein.
Oui, effectivement. Donc, la caravane, c'est plusieurs nationalités. Il y a aussi bien des Sénégalais, des Mauritaniens, des Guinéens, des Gabonais, des Tchadiens. Donc, c'est quelque chose que nous organisons pour mettre en relation beaucoup de nationalités qui font la route. Et pour confirmer, c'est qu'ils sont arrivés hier soir déjà au Sénégal.
Ah d'accord, ils sont arrivés hier soir. On devait vous donner la parole hier et puis on a été submergés par les appels du standard. Landing Mané, le salon des entrepreneurs qui se déroulait à Casa la semaine dernière, donc c'était évidemment, l'idée c'était d'aller chercher des soutiens financiers pour quel type de projet pour ces jeunes entrepreneurs subsahariens?
Oui, en fait, d'abord, il faut comprendre que la caravane, c'est le symbole d'une coopération et des efforts menés par différents entrepreneurs de trois pays. Il s'agit du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. Donc, l'objectif de cette caravane, c'est d'abord de stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes, de leur permettre de développer leurs aptitudes de dirigeant, mais aussi de participer au salon pour pouvoir voir, pitcher et mobiliser des soutiens.
Ouais, le salon donc, Hub Africa, qui s'est déroulé à Casa.
À Casablanca, le 4 et le 5 mai. Donc, les projets qu'on a amenés, on a amené des projets dans le domaine de l'agro-business, on a amené des projets dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, des projets culturels. Donc, c'est plusieurs projets qui ont été amenés au niveau du salon avec des entreprises et des personnes qui travaillent pour le développement de l'agriculture en Afrique.
Mmh. Il y a un projet qui a suscité particulièrement d'attention. Est-ce que tous sont parvenus à trouver des investisseurs ou loin de là?
Oui, en fait, le problème, c'est que c'est un long processus. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pitcher, ils vont présenter leur projet. Et suivant une certaine période, ces projets sont sur la plateforme Hub Africa et des projets peuvent susciter des investissements. Donc, parmi les projets que nous avons menés, il y a un des pitchers sénégalais qui a été primé meilleur projet au niveau du Hub Africa. Mmh. Donc, lui, il a une plateforme de logistique qui permet d'assurer les livraisons au niveau de Dakar.
Ah, d'accord.
Et il est en train de se développer sur la sous-région dans d'autres pays.
Bon, eh bien, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc affiche clairement aussi son intérêt business pour l'Afrique subsaharienne, hein, dans un Maghreb qui s'est longtemps détourné du continent. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, ce nouvel axe sud-sud. Merci beaucoup, Pape Landing Mané, d'avoir été en ligne avec nous. Et puis, bien sûr, vous nous tenez au courant pour la suite de cette caravane Saga Africa qui est rentrée à Dakar hier par la route. Ça fait quand même un long périple, hein.
Oui, merci. C'est un long périple, c'est 3500 km.
Ah oui, merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous. Merci à toute l'équipe et on se retrouve demain pour 7 milliards de voisins.